Merci Yann, nous sommes en effet en direct d'Avignon pour une dernière émission autour du festival. Nous recevrons en portrait Jean-Claude Grimbert et puis deux membres du FC Bergman. Au milieu de l'émission, il y aura un live, ce sera Tigana Santana. Une émission qui commencera exceptionnellement à 13h au vu des événements de la nuit. Le journal de la rédaction a été augmenté, journal qui vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour. Un journal consacré ce midi encore dans sa totalité à l'attaque sanglante qui a frappé Nice hier soir et à la lutte contre le terrorisme. Au moins 84 personnes tuées sur la promenade des Anglais par un camion qui a foncé sur la foule. Nous retournerons sur place avec le récit des témoins de l'attaque, des témoins toujours sidérés ce midi. Nous ferons le point aussi sur l'enquête avec Florence Turme. Le conducteur du camion qui a été abattu à l'issue de sa course folle a été formellement identifié dans la matinée. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les soupçons se portent sur l'État islamique. Les drapeaux sont en berne, un deuil national a été décrété pour demain, dimanche et lundi. Un conseil de défense restreint s'est tenu à l'Élysée ce matin. On apprend que la prolongation de l'état d'urgence sera présentée mercredi et jeudi prochain à l'Assemblée nationale. Mesure qui fait polémique au sein de la classe politique. Nous entendrons le député écologiste Noël Mamère et nous serons en direct avec la sénatrice UDI Nathalie Goulet. Elle a rendu un rapport sur le terrorisme en 2015, juste après la tuerie de Charlie Hebdo. Et puis alors que les soupçons, on l'a dit, se portent sur le groupe État islamique, François Hollande montre une fois de plus sa détermination à renforcer sa lutte contre Daesh en Syrie. François Hollande qui vient d'arriver à Nice pour une visite auprès des services de secours. La ville s'était pourtant préparée à l'hypothèse d'un attentat avec des exercices d'anticipation réguliers il y a quelques semaines encore en amont de l'Euro de football. Mais hier soir, nuit de fête du 14 juillet, le terrorisme a frappé Nice et sa célèbre promenade des Anglais. Un camion a foncé sur la foule, faisant au moins 84 morts et plusieurs dizaines de blessés, 18 en urgence absolue ce midi. Le président de la République annonce un deuil de 3 jours, demain, dimanche et lundi. Et les drapeaux sont en berne ce vendredi. Les centaines de témoins de l'attaque sont toujours extrêmement choqués à l'image de Franck. Il raconte au micro de nos confrères de France Bleu Azur.
J'étais là, en face du palais Méditerranée, et quand j'ai vu un camion arriver à vive allure, et ce camion marchait sur les gens. Je l'ai vu de mes propres yeux, et une fois qu'il marchait sur les gens, les gens ont essayé de l'arrêter pour pouvoir lui dire d'arrêter de marcher sur les gens, mais lui il s'est arrêté juste là comme ça. À l'entrée de là, dans cette rue-là, là. Il s'est arrêté juste avant la rue du Congrès et les policiers sont arrivés, ont commencé à tirer dessus et des balles ont commencé à siffler et il y a même des gens qui ont pris des balles. Il y a une personne que j'ai vue, on est rentré se cacher dans l'hôtel, le palais de la Méditerranée, et il y a une fille qui a pris une balle et ça tirait et après ça a arrêté et je suis reparti, j'ai fait tout le long de la promenade et tout le long de la promenade jusqu'à... J'habite à Magnan et jusqu'à Magnan, j'ai vu que des morts, que des morts.
Sur la promenade,
oui.
Sur le trottoir?
Oui, sur le trottoir. Il n'y avait pas encore beaucoup de policiers, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, c'est fermé. À ce moment-là, ce n'était pas fermé. Tout le long de la promenade, il n'y avait que des morts, des enfants. C'était vraiment horrible à voir. Il y avait des cervelles à terre. C'était vraiment pas bien. C'était vraiment quelque chose de monstrueux. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Les gens, ils avaient apporté des draps, des couvertures, des trucs, des nappes de restaurants et tout ça pour les couvrir. Il y avait des enfants, beaucoup d'enfants. Je pense que ça restera gravé à tout jamais dans mon cœur. Il a tué du monde sur toute la route.
Voilà des centaines de personnes choquées qui garderont en mémoire cette tragique soirée. Phénomène de sidération bien connu des psychologues et que nous explique Muriel Salmona, invitée de France Inter ce matin.
La sidération, c'est vraiment une paralysie du cortex, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans l'irreprésentable et tout se bloque, c'est un blanc en quelque sorte. On se déconnecte parce que je veux dire, il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est pas la personne qui se déconnecte, c'est le cerveau qui déconnecte le circuit émotionnel pour survivre. Et c'est ça qui va générer ensuite un état de dissociation, c'est-à-dire un état d'anesthésie émotionnelle, on est à gare en quelque sorte, on est déconnecté, et puis aussi une mémoire traumatique, c'est-à-dire que la mémoire ne va pas pouvoir être intégrée normalement. Et c'est elle qui va être responsable ensuite des troubles psychotraumatiques avec des flashbacks, le fait de revivre l'événement qui va poursuivre la personne si elle n'est pas prise en charge pendant des mois, voire pendant des années. Toutes ces personnes-là, il faut absolument ne pas les laisser seules, les accompagner, les prendre en charge. Les blessures psychiques, elles paraissent invisibles. En fait, elles sont visibles en IRM, elles sont visibles dans le cerveau, il y a des atteintes neurologiques. Et c'est un peu comme une fracture, ça se répare par une prise en charge et ne pas laisser ces personnes sans soins.
La ville de Nice sous le choc, l'importance de dire, de raconter, la population est meurtrie ce midi. Olivier Martoc a rencontré ces Niçois encore bouleversés.
Après l'urgence, puis la sidération, les Niçois prennent peu à peu conscience de l'horreur de ce qui s'est passé hier soir sur la promenade des Anglais.
Je ne peux pas exprimer ma peine. Ça me révolte. Parce que c'est facile de tuer, surtout comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On vit un pays, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas besoin d'y être 10 pour faire ce qu'ils ont pris. Vous avez vu? Un seul. Il a donné tant de morts, tant de souffrances. On est triste, vous savez, beaucoup. Pourtant, j'ai perdu un fils, moi, il y a 3 ans et demi. Mais mes larmes, elles sont comme si c'était mon petit.
Le périmètre où s'est déroulé l'attentat reste bouclé par les forces de l'ordre. Impossible de passer, même pour les touristes logés dans les hôtels de luxe du front de mer.
Monsieur, s'il vous plaît, pour les stands.
We have the car there.
Oui, mais pour les stands, tout est bloqué, monsieur. Les parkings sont fermés, tout est bloqué.
Investigation prioritaire.
Vous voyez, arrêtez là-bas le camion. Donc vous êtes en plein milieu de la zone d'investigation. Donc je ne peux pas vous laisser passer là, au milieu des techniciens. Voilà.
La promenade des Anglais sera fermée au moins jusqu'à demain, la plage aussi. Toutes les festivités ont été annulées, à commencer par le concert de Rihanna, ce soir à l'Alliance Riviera, devant 40 000 personnes.
12h36 sur France Culture. On va revenir dans quelques instants sur les premiers éléments de l'enquête de cette attaque au camion qui a fait 84 morts à Nice. Enquête dont est saisie la section antiterroriste du parquet de Paris. Le conducteur du camion a été formellement identifié selon des sources policières. Mais d'abord, Thomas Schoeneur, nous revenons avec vous sur le fil des événements de la nuit dernière.
Oui, il n'est pas encore 23h hier soir. Le feu d'artifice du 14 juillet vient de s'achever. La promenade des Anglais est encore noire de monde. Le feu d'artifice est fini, mais il y a encore des concerts tout le long de la promenade. Et puis, le mouvement de foule, la panique totale. Un camion blanc d'une quinzaine de mètres de long a réussi à passer le cordon de sécurité. On ne sait pas encore comment il a pu faire. Les enquêteurs affirment avoir filmé le parcours du semi-remorque grâce aux caméras de vidéosurveillance. Cette nuit, le parquet a indiqué que le véhicule avait réussi à parcourir 2 km. Sur la promenade, le véhicule est lancé à une allure folle. Selon plusieurs témoins, le conducteur donne des coups de volant. Il monte sur le trottoir. Son but est de faucher le maximum de personnes. Vers la fin de cette course macabre, le conducteur tire à plusieurs reprises. Un témoin raconte l'avoir vu conduire d'une main et tirer par la fenêtre. Un pistolet de petit calibre a d'ailleurs été retrouvé dans son camion. Les policiers présents sur place, eux aussi, font feu sur le véhicule. On voit sur les photos le pare-brise du véhicule, du camion qui est criblé de balles. Selon Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes qui s'est rendu sur place, un passant aurait sauté sur le camion pour tenter d'arrêter son conducteur. Sur une vidéo amateur tournée hier soir, on voit également un scooter rouler aux côtés du semi-remorque au niveau de la cabine. Mais ce sont bien les policiers qui ont abattu ce franco-tunisien de 31 ans, qui a laissé derrière lui hier soir des dizaines et des dizaines de victimes.
Merci Thomas Schoeneur. Nous sommes maintenant avec Florence Turm. Bonjour Florence.
Bonjour.
Le chauffeur a donc été abattu au terme de sa course sur la promenade des Anglais, sur le front de mer. Un homme qui a depuis ce matin été formellement identifié.
Effectivement, les papiers d'identité retrouvés dans le camion sont bien ceux du chauffeur, abattu par la police après cette course meurtrière de 2 km. Il s'agit d'un franco-tunisien de 31 ans, résident à Nice et connu des services de police, mais pour des faits de délinquance de droit commun, des violences notamment connues de la police mais pas des services de renseignement. Il ne faisait pas l'objet d'une fiche S qui cible les personnes radicalisées. L'enquête progresse donc rapidement avec des perquisitions en cours, notamment au domicile du tueur, un appartement situé au premier étage d'un petit immeuble d'un quartier populaire de l'est de la ville. Les voisins parlent d'un jeune homme solitaire et silencieux, pas vraiment religieux. Les spécialistes de la police scientifique cherchent donc à recueillir le maximum d'indices sur place dans cet appartement. Une autre piste à exploiter, c'est celle du camion, un 19 tonnes blanc, camion frigorifique loué quelques jours auparavant à Saint-Laurent-du-Var, juste à côté de Nice, ce qui démontre bien le caractère préparatoire de l'attentat. Les hommes de la police judiciaire et de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, travaillent également sur d'éventuelles complicités. À l'intérieur du véhicule, on a retrouvé une arme de poing de petit calibre. Plusieurs témoins affirment que le terroriste l'a également utilisé pour tirer sur la foule tout au long de sa course meurtrière. Il avait aussi dans ce camion d'autres armes, mais des armes factices. Alors au-delà du profil du chauffeur, des interrogations qui demeurent sur ses motivations restent une question essentielle ce matin. Comment a-t-il pu franchir ces cordons, ces barrières de sécurité? Nice était placée sous haute surveillance pour ces festivités du 14 juillet. Y a-t-il eu une brèche dans ce dispositif? Les images de vidéosurveillance, un réseau très dense dans la ville, devraient permettre d'y répondre également. notamment de retracer, ça a déjà commencé, l'itinéraire précis du camion puisque ces images sont en cours d'exploitation.
Alors pas de revendication pour cette attaque au camion ce midi, mais tout laisse à penser qu'il pourrait s'agir de Daesh.
Oui, en l'absence de revendication, cet attentat semble en tout cas porter la marque d'un réseau djihadiste. On pense bien sûr à l'État islamique et à ses consignes répétées de passer à l'action de manière isolée avec n'importe quelle arme disponible, le véhicule qui fonce sur la foule et même explicitement un mode opératoire prôné par Daesh, que ce soit dans son organe de propagande, Inspire, ou encore dans un message audio répété régulièrement depuis le mois de septembre 2014. Par ailleurs, le patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, s'était récemment inquiété devant la commission d'enquête parlementaire d'une nouvelle forme d'attaque terroriste. Après les attentats suicides du 13 novembre de Paris et ceux de Bruxelles, Patrick Calvar s'était même déclaré persuadé que Daesh évoluait vers de nouveaux modes opératoires, notamment des véhicules piégés et des engins explosifs.
Merci Florence Sturm. Et pour compléter votre intervention, le procureur de Paris, François Molins, annonce qu'il tiendra une conférence de presse à Nice cet après-midi à 17h. Après le drame, l'urgence toujours ce midi de venir en aide aux blessés. Le plan Orsec et le plan Blanc qui mobilisent tous les hôpitaux de la région de Nice ont été déclenchés. La préfecture des Alpes-Maritimes a aussi ouvert un centre dans la ville pour les familles concernées par cette attaque. Comme pour les attentats de Paris en novembre dernier, mais aussi ceux de Bruxelles, se pose aussi la question de l'identification des victimes. Travail délicat pour les secours Hélène Masquelier et les familles sont dans l'attente.
Oui, des familles niçoises, des touristes, de nombreux enfants figurent sur la liste des victimes qui n'a pas encore été officiellement établie par les autorités. Alors dans l'attente, la recherche des personnes disparues s'organise sur les réseaux sociaux avec ce hashtag Recherche Nice. Les familles espèrent ainsi recueillir des témoignages de survivants pour sortir de cette angoisse, celle de ne pas savoir. Mais l'identification des victimes prend du temps et l'erreur, elle, n'est pas permise. Les blessés ont déjà été transportés dans les hôpitaux de la région. Grâce à la mise en place de ce plan blanc du gouvernement, les adultes ont été transportés à l'hôpital CHU Pasteur. Les enfants, eux, ont été orientés vers l'hôpital psychiatrique mis à disposition par la ville. Sur le lieu de l'attentat, la coordination des équipes est compliquée. Une multitude d'organisations différentes travaillent ensemble pour recueillir des indices matériels, localiser les corps et recouper les témoignages. La promenade des Anglais est quadrillée, chaque recoin est fouillé par les équipes de police à la recherche de cartes d'identité, de bijoux et autres effets personnels. Une description physique de chacun des corps est également faite, la couleur des yeux, la taille ou tout signe distinctif comme des tatouages, des éléments qui seront ensuite recoupés avec les informations données par les familles. Mais l'identification visuelle souvent ne suffit pas. Une autre équipe alors s'emploie à relever les empreintes, faire des analyses ADN. Toutes ces informations sont ensuite recoupées et confirmées par une commission d'identification. Alors vérifier toutes ces données va prendre du temps. Après les attentats du 13 novembre, certaines familles avaient dû attendre jusqu'à 3 jours pour obtenir une réponse.
Merci Hélène Masquelier. Arrêtons-nous maintenant sur les réseaux sociaux, à la fois précieux dans ce genre de circonstances, mais vecteurs d'informations à manier avec précaution. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
La gestion de crise sur le plan numérique n'est pas encore totalement au point.
Oui, à l'horreur sur la promenade des Anglais s'est ajoutée la panique propagée à une allure vertigineuse via les réseaux sociaux, alimentée par des vidéos de foule en train de courir, de violentes images de morts ou de blessés, et aussi des rumeurs apparues au cours de la nuit, comme celle d'une prise d'otage au centre de Nice, rapidement démentie par le ministère de l'Intérieur. Alors c'est cette dimension dans toute son ampleur que la gestion de crise doit désormais intégrer. Certes, les autorités, comme la préfecture, la police, le ministère de l'Intérieur, se sont cette fois vite adressées à la population via les réseaux sociaux, multipliant les appels au calme, à rester chez soi ou à ne téléphoner qu'en cas d'urgence vitale, une goutte d'eau dans la marée des messages. Or, c'est précisément pour alerter la population en cas de danger, centraliser une information officielle et donner des consignes à suivre pour être en sécurité qu'a été conçue l'application gouvernementale Alerte Attentat. Imaginée après les attentats de novembre et lancée au moment de l'euro, elle a fait preuve hier de sa totale inefficacité. C'est seulement 3 heures après l'attaque qu'elle a lancé une alerte. La secrétaire d'État Axelle Lemaire elle-même a appelé à utiliser Facebook et notamment sa fonctionnalité fonctionnalité Safety Check qui permet aux utilisateurs d'informer les amis qu'ils sont en sécurité. Et puis nous évoquions la recherche des victimes. Rappelons que parmi les authentiques recherches de proches, il y a cette fois encore de très nombreux faux messages, des photos de personnes jamais disparues, comme celle de ce Mexicain qui ressort à chaque attentat. Des appels, donc la précaution doit vraiment rester de mise.
Merci Catherine Pétillon. 12h45, vous êtes sur France Culture, journal dédié à l'attaque au camion de Nice qui a fait cette nuit 84 morts. François Hollande est arrivé justement à Nice pour une visite auprès des services de secours. Cette nuit, il a annoncé la prolongation de l'état d'urgence et la mobilisation de la réserve opérationnelle qui regroupe des citoyens volontaires avec ou sans expérience militaire et prêts à consacrer au moins 30 jours par an à l'armée. Ce matin également, un conseil restreint de sécurité et de défense s'est tenu à l'Élysée. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Anne.
La prolongation de l'état d'urgence sera présentée mercredi et jeudi prochain au Parlement.
Oui, d'abord en Conseil des ministres mardi et ensuite effectivement à l'Assemblée nationale mercredi et au Sénat jeudi prochain. Et ça survient alors que François Hollande avait confirmé hier, à l'occasion de l'interview présidentielle du 14 juillet, que l'état d'urgence prendrait fin comme prévu le 26 juillet après le Tour de France. Mais ce nouvel attentat hier soir à Nice nécessite qu'on y apporte un certain nombre de réponses. Ce qu'a fait notamment Manuel Valls ce matin à l'issue du Conseil de défense.
La cellule interministérielle de crise a été activée. Le département des Alpes-Maritimes a été placé au niveau alerte attentat. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête, ainsi que le recours à la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Enfin, un projet de loi permettant la prorogation de l'état d'urgence sera présenté en Conseil des ministres mardi prochain.
Alors, est-ce que ces réponses apportées par l'exécutif sont à la hauteur ou plutôt sont à la mesure de ce qui s'est passé? Au-delà des mesures d'urgence qui concernent l'enquête, le soutien aux victimes et le recours à la réserve nationale pour soulager des forces de sécurité très fatiguées, on peut distinguer trois réponses strictement politiques. D'abord, le maintien de l'opération Sentinelle, c'est-à-dire des 10 000 militaires déployés sur le terrain. On sait que ça n'a pas beaucoup d'efficacité, mais ça permet de rassurer la population. Il aurait été malvenu de réduire, comme prévu, ce déploiement. Ensuite, l'état d'urgence, précisément, réactivé pour 3 mois supplémentaires. Là encore, ça ne sert à rien ou à pas grand-chose, puisque la loi votée au printemps et promulguée début juin, loi de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, permet précisément de prendre le relais et de faire ce qu'autorisait jusqu'ici uniquement l'état d'urgence. Il s'agit donc là encore d'une réponse symbolique décidée parce que la population, l'opinion, ne comprendrait pas qu'on lui donne l'impression de réduire la voilure. Enfin, le chef de l'État a décidé encore une fois de décréter 3 jours de deuil national à partir de demain, comme au lendemain des attentats du 13 novembre l'an dernier. Là encore, symboliquement, il ne pouvait pas faire moins. On peut se demander, en cas de nouvel attentat, quelle nouvelle batterie de mesures il serait encore possible de décider, car beaucoup déjà a été fait, notamment sur le plan législatif. Et il semble bien qu'on est dans une surenchère politique permanente qui correspond de moins en moins à un souci d'efficacité.
Merci Stéphane Robert pour toutes vos précisions. Cette prolongation de l'état d'urgence, vous le disiez à l'instant, elle fait polémique ce midi. Plusieurs députés écologistes s'élèvent contre cette mesure, comme le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand. Un état d'urgence pérenne met en danger ce qui est extrêmement précieux, à savoir nos libertés fondamentales, a-t-il déclaré. Et c'est aussi l'avis du député écologiste de Gironde, Noël Mamère.
Non, je ne voterai pas la prolongation de l'état d'urgence parce que la preuve vient d'être apportée par cette nouvelle tragédie que l'état d'urgence, ça ne sert pas à empêcher les terroristes d'agir. Donc la réponse, elle n'est pas dans la surenchère sécuritaire comme le demandent déjà un certain nombre de représentants de la droite et de l'extrême droite, mais dans le renforcement des moyens humains, du renseignement, la capacité d'infiltration de ces réseaux. Et je pense qu'il faut expliquer aux Français que aujourd'hui la France est une cible depuis les attentats de Charlie Hebdo, que la question que nous devons nous poser c'est de savoir quand aura lieu le prochain attentat, malheureusement c'est comme ça, et que ce n'est pas en réduisant nos libertés que nous lutterons pour la protection de nos libertés, puisque ceux qui sont en face de nous ont pour objectif de détruire ce qui fait notre ciment.
Vous craignez qu'on aille vers une sorte d'état d'urgence permanent ?
Écoutez, je pense que depuis le mois de novembre dernier, nous sommes dans un état d'urgence permanent et nous étions un certain nombre à dire que si on indexait l'état d'urgence sur les actions terroristes, on n'en sortirait pas. Bien, la preuve vient malheureusement d'être apportée. L'état d'urgence permanent, c'est la réponse la plus faible que nous puissions opposer à ceux qui veulent nous détruire, puisque c'est la preuve de notre faiblesse.
Des propos recueillis par Frédéric Seyss. Bonjour Nathalie Goulet.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée ce midi en direct. Vous êtes sénatrice UDI et vous avez été la coprésidente de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre les réseaux djihadistes qui a rendu un rapport en avril 2015, 3 mois après l'attentat contre Charlie Hebdo. Quelle est votre position sur ce renouvellement possible la semaine prochaine de l'état d'urgence et plus globalement sur cette gradation du renforcement de la sécurité dans notre pays? On le sait, les forces de l'ordre sont à bout. La réponse est-elle adaptée?
Écoutez, là, aujourd'hui, moi j'ai un peu la nausée, je dois dire que j'aimerais mieux un grand moment de silence. C'est un peu contradictoire avec le fait de s'exprimer, mais si vous voulez, moi je vais vous dire très franchement, je suis très solidaire avec le ministre de l'Intérieur sur ces questions. Je pense que la surenchère répressive n'a aucun sens. Je pense qu'on est dans une crise durable. Et ce qui est tragique, c'est que le président nous annonçait hier la levée de l'état d'urgence. Donc ça veut bien dire que ce qui s'est passé cette nuit est totalement imprévisible, parce que sinon nos services n'auraient pas laissé le président de la République nous annoncer une levée de sentinelle et une levée de l'état d'urgence. Donc si vous voulez, on est dans l'imprévisible hier. Bon, c'est une tragédie monstrueuse. Mais la question, c'est est-ce que des mesures sécuritaires supplémentaires, alors qu'on est sous état d'urgence, sous vigipirate, sous une ville qui est quand même sous haute surveillance, puisque M. Estrosi, M. Ciotti ont à cœur cette sécurité de tous les jours, et vous voyez, le terrorisme vient frapper en plein cœur de Nice.
Donc, oui, la ville de Nice, c'est une des villes où il y a le plus de caméras de vidéosurveillance.
Je vous dis, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc vous voyez bien que c'est pas ça qui va empêcher malheureusement. Le point qui me soucie aujourd'hui, c'est comment ce camion fou a passé des barrages. Parce que quand on ferme la promenade des Anglais, on ferme un certain nombre de rues autour. Comment est-ce qu'il a pu passer toute cette sécurité? Ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Et puis de toute façon, il n'était pas surveillé, il n'était pas fiché S, il n'était pas délinquant, il n'était pas connu. On va pas surveiller tous les gens qui louent un camion la veille d'un jour de fête. Vous voyez, c'est impossible. L'équation sécuritaire ne répondra pas à la question d'hier.
Une question de Florence Sturm pour vous, Nathalie Goulet. Florence Sturm qui est restée sur notre plateau.
Justement, quand vous dites cela, Nathalie Goulet, est-ce qu'il n'y a pas un constat d'impuissance face à la lutte antiterroriste et les possibilités effectives de lutter contre le terrorisme?
Mais vous voyez bien qu'on est à bout d'un certain nombre de systèmes. Bruxelles, Ankara, Bagdad, le Bataclan, etc. Vous voyez bien qu'on est dans une série qui malheureusement ne va pas s'arrêter. Donc il y a des procédures qu'il faut revoir. Il est évident que la question du renseignement territorial doit être revue, que l'échange de renseignements doit être revu. Mais je crois pas qu'il faille encore ajouter à notre arsenal sécuritaire. Si vous voulez, aujourd'hui, les politiques, moi je m'étais inquiétée de ça, vous savez que j'avais été la première à demander une commission d'enquête après le livre de David Thompson sur les réseaux, sur les Français djihadistes. Bon, les commissions d'enquête ne règlent pas les problèmes, ils peuvent mettre en exergue éventuellement un certain nombre de failles, mais aujourd'hui on parle pas de ça du tout, on parle de phénomènes qui vont se renouveler et pour lesquels on est dans le ex post. Bon, voilà. Alors maintenant, on est sous état d'urgence, l'euro s'est bien passé, on a relâché un peu de vigilance, on a accepté et on a autorisé un certain nombre de manifestations publiques en oubliant, dans l'euphorie de l'euro qui s'était bien passé, en oubliant les risques liés aux grandes manifestations. Et c'est ce qui s'est passé hier, c'est là que ça a frappé, et c'est une tragédie. Mais je crois pas que les mesures sécuritaires soient la solution, franchement, j'y crois pas. Et je crois qu'il faut jouer plutôt la solidarité avec le gouvernement, parce que l'image qu'on va donner aujourd'hui de la France à l'étranger, on n'est pas dans l'esprit Charlie, hein, qui est parti pour toujours. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais la surenchère politicienne sur ce type d'incident, moi, vous me trouverez pas hurler avec les loups sur ce sujet-là.
Alors justement, Stéphane Robert, qui s'occupe de la politique à France Culture, veut vous poser une question.
Sur cette question-là, justement, la surenchère politicienne, évidemment, on comprend bien que ça pose un souci, mais par ailleurs, on voit bien qu'une partie de la population ne comprendrait pas, qu'on ne prenne pas un certain nombre de mesures symboliques. Elle aurait l'impression qu'on réduit la voilure, ce serait mal compris, mal perçu. Comment trouver la juste mesure, selon vous?
Ben, la juste juste mesure, c'est quand même d'abord l'information, parce que le gouvernement a quand même fait beaucoup de choses, le Parlement a fait beaucoup de propositions, on a voté beaucoup de textes, donc je pense qu'il faut d'abord expliquer la mesure. Mais si vous voulez, chaque fois que le gouvernement dit, moi je suis dans l'opposition, mais chaque fois que le gouvernement dit on est sous une mesure terroriste, les gens sourient en disant que le gouvernement tire argument du terrorisme pour faire telle et telle mesure. Mais c'est pas vrai, on le voit encore aujourd'hui. Bon, alors moi je pense que ce qu'il faut, c'est instaurer une vigilance citoyenne. Je pense que chacun est responsable, un peu comme aux États-Unis, si on voit quelque chose, il faut le dire. Donc je crois que ça, c'est déjà important. Et deuxièmement, il faut être très solidaire de nos forces de police, de nos forces de sécurité qui font du travail. Et puis après, les services qui sont pas obligés d'étaler sur la table toutes les mesures qu'ils prennent, et surtout nos services de renseignement, doivent voir leur capacité accrue en matériel, en hommes, et puis en échange de renseignements. Mais encore une fois, ce qui s'est passé hier provient de quelqu'un qui était complètement en dehors des radars. Donc on n'est pas sur un fichier mal tenu, on n'est pas sur un échange de renseignements, enfin pas à ce stade en tous les cas. On est sur quelqu'un qui était absolument inconnu, même pas fiché S.
Rapidement, Madame Goulet, pour terminer ce vendredi 15 juillet, vous vous appelez à la solidarité nationale autour du gouvernement.
Je pense qu'il faut éviter les surenchères politiques politiciennes autour d'un sujet qui est aussi grave, et je pense qu'il faut aller dans le positif et pas dans la surenchère politicienne. C'est beaucoup trop grave pour qu'on en fasse un sujet de polémique. Et vraiment je suis absolument atterrée de cette espèce de cercle infini de violence pour lesquels on est, vous l'avez dit, quand même un peu démuni, malheureusement.
Merci Madame Goulet, sénatrice UDI, d'avoir été en direct ce midi sur France Culture. Les réactions politiques, justement, les autres réactions politiques, celle d'Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite pour à la présidentielle. Il estime que si tous les moyens avaient été pris, l'attentat de Nice n'aurait pas eu lieu. Nicolas Sarkozy dit, lui, que nous sommes dans une guerre qui va durer. La France, de nouveau, plongée dans l'horreur pour la présidente du FN, Marine Le Pen. Enfin, au parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon invite à rentrer en soi et à laisser passer la vague d'émotions. Il est 12h57 sur France Culture. On va s'arrêter maintenant sur les réactions internationales après cette attaque au camion de Nice, qui, on le rappelle, a fait 84 morts. On apprend aussi qu'il y a au moins une cinquantaine d'enfants hospitalisés. Ce midi, Bruno Cadenne, nous faisons le tour avec vous de ces réactions à l'étranger.
Barack Obama a réagi rapidement à ce qu'il a qualifié d'horrible attaque terroriste. Le président américain s'est déclaré solidaire de la France, notre plus vieil allié. Son secrétaire d'État, John Kerry, présent lors du défilé du 14 juillet, a lui dénoncé une attaque affreuse contre des personnes innocentes, le jour qui célèbre la liberté, l'égalité et la fraternité. John Kerry, qui s'est envolé pour Moscou, Vladimir Poutine, s'est également déclaré solidaire avec la France, en dénonçant un terrorisme qui ignore la morale humaine. Le président russe ajoutant que ce mal monstrueux sera vaincu par l'union des forces de l'humanité civilisée. Les 51 pays participant au sommet Europe-Asie d'Oulan-Bator en Mongolie ont condamné cet attentat en ouverture de leurs travaux, tout comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Condamnation également dans le monde arabe, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis ou en Égypte, où le mufti du pays a qualifié le terroriste de Nice d'extrémiste marchant dans les pas du diable. L'université Al-Azhar du Caire, la plus haute institution de l'islam sunnite, a appelé à l'unité pour débarrasser le monde du terrorisme. Le Brésil, le Canada, le Chili ou la Turquie condamnent également cet attentat. En Europe, le gouvernement belge a convoqué un Conseil national de sécurité en prévision de la fête nationale du 21 juillet. Les principaux dirigeants européens se sont déclarés inquiets et choqués en ce qui concerne Theresa May, triste pour la France et l'Europe pour Donald Tusk. Mariano Rajoy parle d'un attentat exécrable et Beata Szydło, la première ministre polonaise, évoque sa douleur et sa grande colère. Enfin, Angela Merkel, depuis la Mongolie, a déclaré que l'Allemagne était aux côtés de la France et que les mots suffisent à peine pour dire ce qui nous unit à nos amis français.
Merci Bruno. Et puis un focus pour terminer sur la Syrie et l'Irak, où la France annonce qu'elle va renforcer ses actions. Nabila Hamel.
Oui, François Hollande l'avait déjà annoncé avant même l'attentat de Nice. La France, disait-il mercredi, va renforcer son soutien aux forces irakiennes. Il s'agira plus concrètement de redéployer le porte-avions Charles de Gaulle et d'intensifier le concours de l'armée de terre pour lutter contre le groupe État islamique et lui reprendre son fief de Mossoul. A signaler que sans prendre directement part au combat, il y a déjà 300 à 400 soldats français qui forment des forces irakiennes à Bagdad et des combattants kurdes, les Peshmerga. Alors, au lendemain de l'attentat meurtrier sur la promenade des Anglais, François Hollande montre plus de détermination encore. Rien, dit-il ce matin, ne nous fera céder dans notre volonté de lutter contre le terrorisme et nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak. Un constat inquiétant toutefois, l'affaiblissement des djihadistes et la perte de territoire dans leurs fiefs traditionnels syriens et irakiens ne les a pas empêchés de programmer des attaques meurtrières ces dernières semaines à Bagdad et en Arabie Saoudite. Le directeur du FBI, James Comey, évoquait cette question hier devant une commission du Congrès américain. Pour lui, une défaite de l'EI en Irak et en Syrie rendra le groupe extrémiste prêt à tout pour démontrer qu'il garde sa vitalité, ce qui se traduirait, dit-il, par une hausse des attentats.
Les précisions de Nabila. Amel, la météo de votre après-midi, le soleil s'est imposé partout. Les températures s'échelonnent entre 17 pour Rouen et Brest et 26 à Ajaccio et Marseille. 13h sur France Culture. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les informations développées dans ce journal sur notre site internet franceculture.fr.